franceinter.fr.
Et donc à la une de la science aujourd'hui, la découverte d'un poumon caché chez le sélacanthe, une surprise de plus pour ce poisson vieux de plusieurs millions d'années.
Alors, la nage du sélacanthe est quelque chose d'extraordinaire, d'abord parce que la plupart de ses nageoires sont pédonculées, c'est-à-dire qu'elles sont fixées au bout d'un petit manchon recouvert d'écailles, et quand on dissèque ces manchons, à l'intérieur on découvre des os. Et c'est vraiment l'équivalent, c'est les prémices des pattes des vertébrés terrestres, donc l'équivalent de notre bras aussi.
Voilà, et c'est donc une nouvelle surprise qui a été révélée par les scientifiques au sujet de ce poisson, le sélacanthe, puisqu'une équipe internationale lui a trouvé un poumon grâce au concours d'un accélérateur de particules. L'étude vient de paraître dans la revue Nature Communication. Marc Herbin, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, co-auteur donc de cette étude, et par téléphone également, Paul Taforeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue au synchrotron Grenoble, donc l'accélérateur de particules qui a contribué à cette découverte. Vous allez nous en parler. Marc Herbin, retrouver un poumon chez un poisson, c'est quand même un peu surprenant, non?
On n'en trouve pas généralement uniquement chez des dipneuses, qui sont une espèce de poisson qui a la particularité d'avoir des branchies et des poumons pour suppléer à la respiration quand il y a quasiment plus d'eau. Et chez le sélacanthe, on savait qu'il y avait un diverticule œsophagien qui avait été décrit il y a bien longtemps.
Oui.
Et de découvrir que en fait ce diverticule est bien une relique d'un poumon qui était sûrement fonctionnel il y a des millions d'années, oui, c'est une belle découverte.
Oui, donc relique de poumon, hein. Déjà ça précise un petit peu les choses quand même, hein.
Oui, c'est ce qui reste d'un poumon qui devait fonctionner avant, mais qui ne l'est absolument plus maintenant. Et l'étude qu'on a fait sur un adulte et sur un embryon grâce à Paul à Grenoble,
oui,
a montré que le poumon était bien là et que autant chez l'embryon de 4 cm, il était important, le développement de ce poumon s'arrête très rapidement et il reste plus qu'une petite virgule, en fait. Au niveau de l'œsophage chez l'adulte.
Ah oui, vous appelez ça une petite virgule. Donc elle fait combien de centimètres, cette petite virgule?
2 à 3 centimètres.
Ah oui, donc c'est un petit poumon sur un gros poisson, qui est donc le sélacanthe. Paul Taforeau, donc cette découverte a nécessité l'utilisation d'outils très sophistiqués que vous possédez au synchrotron de Grenoble. Vous nous rappelez d'abord ce qu'est le synchrotron?
Alors le synchrotron, c'est un accélérateur de particules. On accélère des électrons et ensuite on les dévie grâce à des champs magnétiques.
Mmh.
Et quand on dévie ces électrons qui sont quasiment à la vitesse de la lumière, ils produisent des photons de la lumière qu'on appelle la lumière synchrotron. Et nous, on utilise cette lumière dans des lignes de lumière. Donc, il faut imaginer des faisceaux lumineux extrêmement puissants.
Oui.
Sauf que c'est pas de la lumière visible, c'est des rayons X qu'on dit durs, c'est-à-dire des rayons X de haute énergie qui peuvent traverser la matière.
Et l'avantage, évidemment, c'est de pouvoir étudier des échantillons sans les détruire du tout.
Alors, un synchrotron, ça sert à énormément de choses, mais une des applications des synchrotrons, c'est l'imagerie à rayons X, comme on peut faire avec un système à rayons X d'hôpital, sauf qu'un synchrotron, c'est 10 puissance 14 fois plus puissant. Donc, vous imaginez un 1 et 14 zéros derrière, ça vous donne une idée de la puissance de ce type de faisceau.
Ouais.
Mais ce qui est bien quand on a autant de photons, et surtout quand on a les photons de très bonne qualité, dirons-nous, c'est qu'on peut se permettre d'en prendre qu'une toute petite partie pour obtenir une qualité d'image qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire sur une source de rayons X comme celle d'un hôpital ou comme celle d'un microscanner.
Et donc ce qui vous a permis d'étudier des embryons, hein, c'est que là vraiment vous allez dans des choses tout à fait minuscules.
Alors pour nous, c'est pas minuscule, en ce sens que les synchrotrons d'habitude sont connus pour l'imagerie sur des objets extrêmement petits, de l'ordre du millimètre ou plus petit encore. Là on est sur des échantillons qui vont de 4 cm à peu près 25 cm pour le plus grand des embryons qu'on a fait. Donc pour un synchrotron, c'est plutôt très grand, c'est exactement l'inverse.
Oui.
En fait, le vrai défi qu'on a eu, c'était d'arriver à appliquer sur des objets d'aussi grande taille des techniques qui marchaient très bien sur les petits objets. C'est comme si vous vouliez regarder quelque chose avec un microscope, sauf que ce que vous voulez regarder est plus gros que le microscope.
Marc Herbin.
Donc ça a été vraiment un défi inversé, en fait. C'était d'arriver à avoir la qualité qu'on a normalement dans les réseaux microscopiques, réussir à faire ça sur un objet qui était déjà de l'ordre de 10 cm.
En tout cas, Marc Herbin, c'était effectivement nécessaire de faire appel au synchrotron pour pouvoir faire ces dissections virtuelles de petits embryons, donc.
Tout à fait, c'est tout à fait indispensable. La collaboration avec Paul est très riche puisque il existe un seul embryon de 4 cm de sélacanthe au monde, donc il n'était pas question de disséquer le spécimen, et c'est grâce à ce type de collaboration qu'on peut avancer dans nos recherches.
Et donc l'embryon et le poumon, donc par rapport à la taille de l'embryon, est beaucoup plus important qu'une fois que le sélacanthe grandit, hein.
Tout à fait, oui, la proportion relative est complètement inversée. Chez l'embryon, le poumon, enfin le poumon réel prend une grande place par rapport à la taille globale des viscères, et quand on regarde chez l'adulte, comme je vous disais, c'est quelques centimètres comparé à des viscères qui font on va dire jusqu'à 80-90 cm, hein. L'animal adulte peut atteindre 2 mètres.
Ouais, donc le sélacanthe possède cette petite virgule dont vous parliez tout à l'heure. Pourquoi il a abandonné son poumon en somme ?
Eh ben, on pense qu'il n'en avait plus besoin. Les premiers sélacanthes qui ont émergé il y a 400 millions d'années étaient des animaux qui vivaient aussi bien dans l'eau salée que l'eau douce, et qui vivaient aussi bien à quelques mètres de profondeur que peut-être plus profond. Donc on peut penser qu'à certaines périodes, le sélacanthe avait besoin d'un complément respiratoire grâce aux poumons. Et après la crise des grandes crises, on pense que les sélacanthes qu'on retrouve actuellement sont une lignée qui aurait migré vers les grands fonds. Hein, c'est pas des poissons abyssaux, c'est des poissons des grands fonds. Et donc les poumons auraient régressé ou ne seraient pas développés, mais seraient toujours présents.
Paul Taforo, pour terminer, la physique des particules, c'est donc utile en paléontologie. Vous avez d'autres projets là dans ce domaine ?
Alors en fait, oui. L'exemple qu'on vient de voir, c'est le résultat de gros efforts qu'on a fait au cours des 3 dernières années dans ce qu'on appelle le projet de l'upgrade de l'ESRF. Donc c'est une remise à jour du synchrotron. Il va y en avoir une deuxième phase encore beaucoup plus importante dans 3 ou 4 ans. Mais donc cette première phase a permis ce genre d'application en biologie, mais également a permis d'ouvrir complètement des nouveaux horizons pour l'imagerie des fossiles, qui est encore plus compliquée que l'imagerie des échantillons biologiques, et plein d'autres applications, plus dans la science des matériaux et autres. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ces applications avec cette technique qu'on appelle le contraste de phase, on les a vraiment poussées beaucoup plus loin que ce qui se faisait avant. Et ça a énormément changé notre façon même d'envisager les projets de recherche.
Et apparemment, vous allez suivre l'évolution des embryons in vivo dans les œufs de tortue ou de crocodile. Hein. Je crois que
c'est
partie des projets qui arrivent.
C'est ça, en fait, la technique qu'on a développée là. Ouais. On va la rendre beaucoup plus efficace pour utiliser moins de faisceaux, moins de doses, pour la rendre compatible in vivo. On n'y est pas encore, mais normalement, on devrait y arriver dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent.
Merci en tout cas beaucoup Marc Herbin et Paul Taforo pour vos explications à l'occasion de la parution de cette publication donc au sujet de la découverte de ce poumon chez ce poisson fossile, le sélacanthe. Merci beaucoup d'être passé dans le club de la tête au carré. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une nouvelle science est née, on l'appelle la sonogénétique, c'est l'utilisation des ondes ultrasonores pour activer des neurones chez un animal. Les chercheurs américains viennent de montrer qu'il est possible d'activer des cellules nerveuses chez un ver en utilisant ces ondes. L'ultrason servira à influer sur l'expression des gènes du ver afin de pouvoir manipuler ces neurones. Cette découverte pourrait servir à l'étude du réseau neuronal de gros vertébrés. Une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter, c'est ce que des chercheurs américains de l'Université de Californie viennent de mettre au point. Cette cape est encore microscopique puisqu'elle ne mesure que 80 nanomètres, mais il serait bientôt possible d'en augmenter la taille pour dissimuler de plus gros objets, étude publiée dans la revue Science aujourd'hui. Et puis la 25e édition des Ig Nobel, c'était hier soir à l'université d'Harvard. Ces prix récompensent chaque année des chercheurs les plus loufoques et les plus insolites, et leurs études en particulier, qui cherchent à faire rire mais aussi à faire réfléchir. Hier, Michael Smith a reçu l'une des nombreuses récompenses grâce à son travail sur les piqûres d'abeilles. Le chercheur a dû subir 3 piqûres différentes dans 25 endroits de son corps afin de mesurer les zones les plus sensibles, et selon lui ce sont les narines, les lèvres et le pénis qui arrivent en tête. Tous les prix et la diffusion de cette cérémonie sont en lien sur le site de la Tête au Carré.